Nous avons un grand Dieu et on va le voir au travers du psaume 103. Je ne vais pas lire tout le psaume 103, mais on va lire en tout cas des parties de ce psaume, peut-être un de mes psaumes préférés et probablement que plusieurs d'entre vous le connaissez aussi. Donc petite introduction très courte sur les psaumes. Les psaumes, donc c'est plusieurs écrits, hein, plusieurs, il y a plusieurs psaumes. Les psaumes font partie des livres poétiques. Donc c'est écrit d'une manière sympathique, c'est joli, c'est bien écrit. Il y a des métaphores, donc c'est normal qu'il y ait des métaphores. Des fois vous dites, ben, c'est pas exactement, ben non, mais c'est poétique, donc c'est normal. Il y a aussi, ben, on ne le voit pas toujours dans le français, mais dans l'hébreu, ben, il y a des jeux de mots, il y a des rimes. Il y a des psaumes qu'on dit alphabétiques, hein, donc il a commencé son psaume en suivant l'alphabet hébreu, mais bien sûr ça ne se voit pas dans le français. Donc il y a toutes ces choses-là dans les psaumes. Et puis les psaumes, eh ben, ils sont souvent chantés, on devrait plutôt dire psalmodiés, hein, d'ailleurs, un bon terme, un bon verbe en français, psalmodiés. Donc ils ont été, c'est des textes qui ont été chantés, c'était finalement leur chant de louange aussi à l'époque. Et puis si les psaumes sont tellement appréciés, est-ce qu'il y en a qui lisent souvent les psaumes? Il y en a, ils lisent tous les jours un psaume. Voilà, il y a quelques-uns qui... Je vous fais participer aujourd'hui, c'est bien. Comme ça, ça aère les aisselles. Hein. Eh bien, c'est vrai, c'est parce que les psaumes traduisent le vécu d'une personne ou de plusieurs personnes. Il y a un contexte, ils sont souvent reliés à des circonstances dans ces textes. Puis c'est un peu comme si, d'un coup, tu lis un psaume, puis tu te retrouves dans la prière de quelqu'un. Tu te retrouves dans un moment intime, dans un moment de dévotion avec la personne, un moment de louange. Donc c'est assez intime et puis on peut vraiment s'identifier. Bien que nos circonstances soient différentes, on peut vivre des émotions similaires. Alors parfois dans les psaumes, on va voir « Délivre-moi de mes ennemis, oh Dieu, qu'est-ce que tu es en train de faire ?» Puis là, bah, on pense à toutes les personnes qu'on pourrait mettre dans nos ennemis. Non, vous ne faites pas ça, tant mieux, super. Mais voilà, vous comprenez ce que je veux dire. Donc ce matin, c'est un psaume de reconnaissance, donc c'est joyeux, c'est un psaume de louange qui est écrit par David, le roi David, roi d'Israël, qui était un louangeur, un chantre, un worshipman, je ne sais pas comment on pourrait dire, hein, un gars, il ne jouait pas de la batterie ou de la guitare, il jouait de la harpe, hein. Mais ça fonctionne aussi. Et ce psaume commence comme ceci. Donc de David, voilà, je ne vous ai pas dit des bêtises. Bénis l'Éternel mon âme, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Bénis l'Éternel mon âme et n'oublie aucun de ses bienfaits. Alors là, beaucoup de gens connaissent ça par cœur. Et qu'est-ce qui se passe ici? David commence par se parler à lui-même en fait. Il parle à son âme. Et puis des fois, c'est nécessaire. Il y a des jours où on se lève et puis on se lève du mauvais pied, on est de mauvaise humeur, on a l'impression que tout est gris. Ben, de temps en temps, il faut dire à son âme, « Hé, mon âme, wow, réveille-toi. Reste pas comme ça dans l'apathie, là. Regarde en haut. Bénis l'Éternel. Hein. » Bénir, c'est dire du bien, simplement. Donc c'est bénir l'Éternel. Être dans la reconnaissance, dans la joie. Mais parfois, on a besoin de se le dire à nous-mêmes. Ça arrive. C'est nécessaire. Et puis la première chose que j'aimerais donc relever, c'est qu'il se dit à lui-même de ne pas oublier ce que Dieu a fait. Est-ce que ça t'arrive d'oublier? Dieu fait des choses parfois et on ne s'en rend même pas compte tout de suite, mais il agit dans nos vies et il est important, essentiel de s'en souvenir. Vous savez pourquoi c'est tellement important de s'en souvenir? Plusieurs raisons. En se rappelant de son action passée, on est encouragé dans le présent, dans notre difficulté du moment. On se rappelle que s'il a agi comme ça dans le passé, il peut encore agir comme ça aujourd'hui, parce que Dieu ne change pas. On se rappelle en qui nous croyons. Un Dieu qui agit concrètement dans nos vies. Donc il peut agir encore, il le fait, il est tout puissant. En se rappelant ce qu'il a fait, nous avons alors une occasion aussi de transmettre, de témoigner aux autres, d'encourager nos amis, nos familles. Et c'était le sens des fêtes en Israël. Il y avait des fêtes, c'était toujours en lien avec des circonstances de ce que Dieu avait fait. Parce qu'il fallait que le peuple se souvienne. Il fallait que les générations futures se souviennent de ce que Dieu avait fait. Et c'est ça qui devait être à les mettre en action aujourd'hui, pouvoir se réjouir, puis se dire, ah, alors ce Dieu-là, je veux mettre ma foi en lui. Je veux lui faire confiance. Il a agi comme ça dans le passé, il agira encore aujourd'hui. Et David continue donc en explicitant finalement ses bienfaits. Il fait une sorte de liste, hein, il dit, c'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies, c'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde, c'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. L'Éternel fait justice, il fait droit à tous les opprimés. Je ne sais pas si vous saviez que l'aigle, eh ben, son plumage est renouvelé chaque année. Je savais pas cela, mais il est renouvelé. Donc c'est l'image de l'aigle qui sait prendre de la hauteur, mais en fait chaque année on a l'impression qu'il rajeunit l'aigle. Donc c'est une magnifique image. Mais du coup, David est en train de dire simplement, ben, n'oublie pas, Dieu pardonne. Alléluia. Alléluia, Dieu pardonne, Dieu guérit, Dieu délivre, Dieu y prend soin, Dieu fait justice. Voilà ce que Dieu fait encore. Alors vous allez me dire, ben, est-ce qu'il guérit à chaque fois? Ce serait un long message, j'en ai fait toute une série d'ailleurs. Il a le pouvoir et la puissance de le faire, il n'y a aucun doute. Mais il ne le fait pas toujours là maintenant comme on le voudrait. Mais oui, il guérit, il délivre, il nous comble de bien, il fait justice. Et peut-être que tu l'as vécu toi-même, toi qui es ici ce matin, et tu peux dire avec David, ouais, oui, c'est vraiment vrai. Oui, c'est vraiment vrai, moi je peux l'affirmer, c'est vraiment vrai. J'ai vécu ces choses-là, j'ai été délivré, j'ai été guéri, j'ai vu sa justice s'accomplir, j'ai vu sa miséricorde, sa grâce, son pardon. Je peux dire c'est vrai, mais il y a des millions de personnes à travers les siècles qui peuvent dire oui, c'est vrai, ils l'ont expérimenté. Et du coup, ça nous permet de ne pas oublier et d'être encouragés dans notre foi aujourd'hui même. Dieu guérit. Il l'a fait, il le fait encore. Il peut te guérir ce matin, toi qui es là, te délivrer de ton addiction. Il peut réjouir ton cœur, toi qui passes par des temps où tu dis oh, c'est quand même dur la vieillesse. Je comprends, je vois pas trop le sens, je sais pas trop ce que je vais faire. Non, il peut te redonner une saison joyeuse, il peut te rendre justice peut-être à toi à qui on a fait mal. Est-ce que tu le crois ce matin ? Et la deuxième chose qu'on voit dans ce psaume, c'est que Dieu fait grâce. Et cette compréhension de la grâce que le roi David avait, elle est assez exceptionnelle. À ce moment-là, on peut se dire, ça peut que découler d'une relation personnelle et intime qu'il a avec Dieu. Parce qu'à ce moment-là, dans l'Ancien Testament, Dieu se révèle comme un Dieu puissant, comme un Dieu juste, un Dieu saint, qui ne supporte pas le péché. Il ne peut pas être en contact avec le péché et le péché est puni. Mais David, par son expérience, il a compris le cœur derrière cela. Il a compris le cœur de Dieu. David, lui, il a commis l'adultère. Il a fait mourir un innocent. Mais il s'est repenti de son péché et il peut vraiment dire aujourd'hui, Dieu pardonne. Et puis, il dit au verset 8, l'Éternel fait grâce, il est rempli de compassion, il est lent à la colère. Et riche en bonté. Verset 10, il ne nous traite pas conformément à nos péchés, il ne nous punit pas comme le mériteraient nos fautes. Mais autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Alors la définition de la grâce est une faveur imméritée. Personne ne peut mériter l'amour de Dieu et son pardon. Et David le savait, David l'avait compris, il a expérimenté la grâce et la bonté de Dieu. Alors il prend deux extrémités pour parler de cette bonté, la terre et le ciel. La distance terre-ciel, on n'est toujours pas d'accord, hein. On a des super scientifiques, vous avez tous regardé l'éclipse solaire cette semaine, hein, voilà, j'espère que c'est bon, tout le monde va bien avec les yeux. Voilà, il y a des choses extraordinaires qui se passent et qu'on observe, mais cette distance-là, on n'arrive pas à la calculer. Elle est immense. Et il prend ça pour dire la bonté de Dieu, elle est comme ça. Elle est immense, elle est sans fin. Et puis, il utilise deux autres extrêmes, l'Est et l'Ouest. Si vous allez à l'Est, ben, vous n'irez jamais, vous n'allez jamais trouver l'ouest. Nous, nos panneaux pendant nos vacances, ça ressemblait un peu à ça. Hein, mais je peux vous dire que vous avez intérêt de savoir où est l'est, l'ouest, le nord ou le sud. Hein, parce que c'est des numéros de route, des routes avec est-ouest. Bon, chérie, on va bien à l'est. On a réussi à se planter quand même une fois. Et puis la prochaine sortie, c'était, je ne sais plus, 20, 25 km, je crois. C'est pas grave. C'est pas grave. S'il avait dit le nord et le sud, hein, ben, si on va au nord, ben, finalement, à un moment donné, on va retomber au sud. D'accord ? L'est et l'ouest. C'est de cette manière-là qu'il éloigne nos transgressions. Il y a un théologien qui a dit ceci, un théologien allemand, il a dit « Peux-tu, quand tu marches vers l'Orient, rencontrer l'Occident ? Quand tu marches vers Jésus, rencontrer la condamnation. » Si Christ couvre nos fautes, c'est de nous-mêmes qu'il éloigne nos transgressions pour qu'on en sorte. Il enlève nos transgressions, on ne les voit plus, on n'y pense plus. Vous savez, des fois, quand on a quelque chose qui revient, on y pense tout le temps. Mais une fois qu'on est pardonné, une fois qu'on reçoit cette paix de Dieu, alors ces transgressions-là, elles ne sont plus devant nous. On ne reste pas dans la culpabilité, dans la honte, dans la mort, parce qu'il a autre chose pour nous, une vie nouvelle. Donc Dieu pardonne, transforme, et puis il redonne quelque chose de nouveau. Donc ce que dit David dans ce psaume, Jésus est venu l'accomplir parfaitement. C'est Jésus qui a accompli tout ça. Donc c'est pour ça que ce psaume, il est extraordinaire. Il a accompli cela en mourant à notre place par amour pour nous. Et dans le Nouveau Testament, on trouve un texte qui ressemble à ce psaume finalement dans Éphésiens, chapitre 2, versets 4 à 8, où il est dit « Mais Dieu est riche en compassion à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts en raison de nos fautes, il nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités et fait asseoir avec lui dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Il a fait cela afin de montrer dans les temps à venir l'infinie richesse de sa grâce par la bonté qu'il a manifestée envers nous en Jésus-Christ. En effet, c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. » Amen. Et donc c'est cela qu'on va célébrer tout à l'heure. C'est ce que Sébastien, Maria et Diane vont proclamer. Ils ont été saisis par l'amour de Dieu. Ils sont couverts par la grâce de Dieu. Ils ont expérimenté ce pardon et ce changement. Dieu est un Père qui a compassion. Un Père a aussi de l'autorité. Il a aussi de l'autorité. C'est un Père qui est droit, qui est juste. C'est un Père plein d'amour pour ses enfants. Et donc c'est par amour qu'il est venu nous rencontrer, nous sauver, nous chercher, vous chercher, Maria, Sébastien, Diane. Nous sommes sauvés par grâce. Et ça paraît peut-être évident pour certains et peut-être moins pour d'autres. Mais faire des bonnes actions pour se racheter d'un passé compliqué, c'est bien, mais ça ne sauve pas. Accepter Jésus comme son Seigneur et Sauveur, mettre notre foi en ce Dieu qui pardonne, guérit, délivre, ça change tout. Nos baptisés l'ont compris, saisi, et je vous invite à faire de même ce matin. Et David termine ce psaume en disant finalement « Dieu sait de quoi nous sommes faits ». Je lis les versets 13 et 14. « Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent, car il sait de quoi nous sommes faits, il se souvient que nous sommes poussière. » Moi, ça m'aide, ce verset-là. Parce que Dieu n'est pas dans l'illusion. Dieu ne se dit pas, « Ah, ils sont tellement forts. C'est des rocs, mon équipe, là. Il n'y a jamais une faille. » Non, il sait qu'on est fragile, au contraire. Il connaît nos fragilités, il connaît tes fragilités ce matin. Il connaît les miennes. Parfois, on pense être fort. J'ai rencontré des gens comme ça. Même ils vivaient un truc difficile, ils ne voulaient pas pleurer. Ils disaient, non mais moi, je suis fort. Pas fort longtemps. On n'est pas fort longtemps quand justement la souffrance nous frappe. Quand l'imprévu montre le bout de son nez, quand la maladie arrive, quand une accusation infondée est sur nous, quand on a un trop-plein au boulot, quand notre mariage s'effondre, quand on perd un enfant. Il y a tellement de choses difficiles dans la vie. On n'est pas si fort que ça. On est fragile, au contraire. Mais sachant cela, sa compassion est d'autant plus grande. Ça, c'est une bonne nouvelle. Et face au péché, la même chose, nous restons faillibles. Il le sait aussi. On a ce désir de marcher dans la sainteté, d'être à part, de ressembler à Jésus. Nos baptisés, ils vont mettre tout ce qu'ils ont vécu, leur vie passée sans Dieu, leur vie de, aussi où il y a eu des péchés, il y a eu des mauvais choix, toutes ces choses-là, ils mettent ça au fond de l'eau pour dire maintenant je revis avec Jésus, c'est une vie nouvelle, puis je ne veux pas retourner dans ces choses-là. Mais on reste faillible. Il y aura encore des erreurs sur notre chemin. Mais on n'a pas envie de... Je dis toujours aux baptisés, hein, on ne reste pas dans notre boue. On ne se complaît pas comme les cochons. Des fois, ils aiment être dans leur boue. On parle de vaches, de cochons aujourd'hui. Tout va bien. C'est l'agriculture. Non, mais c'est vrai, un cochon, c'est ça son plaisir. Hein, c'est d'être dans la boue. D'accord ? Non. Parfois, on s'en coupe. Parfois, on tombe. Mais on se relève parce que notre but, il n'est pas de rester là. D'accord ? Donc oui, mais Dieu sait ça. Dieu, il connaît notre fragilité. Et il dit d'ailleurs, Paul, il dit dans 1 Corinthiens, que celui qui est debout prenne garde de ne pas tomber. Mais dans sa compassion, son amour, il nous a donné, et il vous donne encore ce matin, son esprit. Son esprit qui console, son esprit qui guide, son esprit qui conseille, qui nous permet de justement résister aux ruses de l'ennemi qui voudrait nous faire rester dans notre boue. Il sait de quoi nous sommes faits. Et il sait aussi de quoi nous avons besoin. Alors, dans quelques minutes, on va donc entendre ces témoignages, et je crois que c'est vraiment lié à ce texte de psaume 103, c'est vraiment l'illustration parfaite. Ils ont été délivrés de la fosse, les amis, ils ont été délivrés de la mort. Donc on va le voir, on va l'écouter, mais j'aimerais vous inviter, pour conclure, à vous souvenir d'où vous venez. Souvenez-vous de son œuvre, souvenez-vous de ce qu'il a fait pour vous, peut-être juste hier, la semaine dernière, ou il y a 20 ans. Est-ce que vous remarquez encore ce qu'il fait ou est-ce que vous êtes juste habitué? Laissons-nous émerveiller ce matin devant sa bonté aussi grande que la distance terre-ciel. Soyons conscients chaque jour de sa grâce dans notre vie. Ne perdons pas espoir. Ne perdez pas espoir si vous êtes ce matin dans la difficulté, si vous vivez des temps difficiles, lorsque vous traversez la tempête, lorsque vous ferez face à la tentation. Il sait de quoi vous êtes fait et il manifestera sa compassion et vous donnera sa force. J'ajoute ceci, je ne vais pas m'étendre, mais il y avait une condition dans ce texte. Vous l'avez peut-être relevé. Ça vous a peut-être même dérangé. Il est écrit « Ceux qui craignent l'Éternel ». Craindre l'Éternel, ce n'est pas avoir peur de lui. Craindre l'Éternel, c'est le considérer comme Dieu, c'est le mettre à sa juste place. Dieu, c'est un père, mais c'est un maître, c'est un roi. Alors on lui doit le respect, l'honneur, la révérence. Et quand on craint Dieu, on cherche à accomplir, à faire ce qu'il veut lui, sa volonté. Alors si c'est le cas, et dans la Bible on voit des gens qui ne connaissaient pas encore Jésus mais qui craignaient Dieu. Ils étaient des craignants Dieu. Ils avaient cette conscience qu'il y avait un Dieu là. Et si c'est le cas, alors, oui, il va agir. Et si tu te dis, mais moi je ne sais pas trop ce que c'est, puis voilà, ça ne me parle pas vraiment, la crainte de Dieu, qu'est-ce que c'est? Tu peux aussi lui demander de te révéler cela. De te révéler, qu'il se révèle à toi comme ce Dieu qui est grand, afin de recevoir cette crainte, cette bonne crainte de lui.